Bonjour à tous. Je vais un peu, sans qu'on se soit concerté, emboîter le pas de Dominique, qui a prêché ces dernières semaines sur des personnages de l'Ancien Testament, pour y trouver, y puiser des exemples. Et je vais ce matin utiliser le livre de Ruth pour ce message. C'est une lecture un petit peu longue. J'ai pas pris heureusement tout le livre de Ruth en lecture, mais j'ai pioché quelques passages pour guider un peu ce message. Donc je vous invite à lire. Donc le premier passage est à prendre en juge, le dernier verset du livre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et puis dans le livre de Ruth, donc au chapitre 1, des versets 1 à 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Entre ces deux passages, Orpa, une des deux belles-filles de Naomi, décide de rester dans le pays de Moab, et Ruth, quant à elle, fait le choix de rester attachée à Naomi. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elle glana dans le, donc elle, Ruth, glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé, aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom, en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole, ouverte devant nos yeux. Je te prie ce matin d'ouvrir nos esprits et de guider mes paroles pour que nous puissions être enseignés et conduits par toi sur le chemin de la foi. Amen. Comment caractériser la période que nous vivons actuellement ? Une période troublée, sans précédent dans l'histoire ? Effectivement, l'actualité nous apporte en permanence son lot quotidien d'événements tous plus déprimants les uns que les autres. Des guerres avec leur lot d'horreurs, les déportés de Syrie, les exactions en tout genre, des guerres sous couvert de motifs religieux, la crise économique en Europe et dans les pays développés, les catastrophes climatiques qui nous paraissent de plus en plus fréquentes, notre avenir climatique, dont on ne sait ce qu'il nous promet pour les années à venir, les épidémies et maladies en tout genre, dont la dernière nommée Ebola, notre société contemporaine qui perd tous ses repères, tant moraux que politiques. Et je m'arrête là parce que la liste pourrait être encore très longue et vraiment déprimante. Je pense que la caractéristique principale de notre époque est surtout l'accélération du changement. La profusion d'informations qui circulent de plus en plus vite, avec toujours plus de mondialisation des problèmes. Mais cette période est-elle vraiment unique dans l'histoire ? Certaines caractéristiques des événements que nous voyons dans cette actualité sont nouvelles et portées par cette mondialisation tant décriée et par la médiatisation qui est maintenant portée par les individus eux-mêmes. Mais le fond du problème reste toujours le même. L'homme est porteur du péché qui lui colle à la peau comme la plus forte des colles. Et j'en veux pour preuve le livre des Juges, qui relate une période de l'histoire du peuple juif qui suit celle de l'entrée dans la terre promise. Je vous invite d'ailleurs à relire ce livre historique qui comporte de nombreuses similitudes avec notre actualité dont j'ai parlé précédemment. On y trouve tous les ingrédients d'une société en perte de repères religieux, moraux et politiques. La période des juges est caractérisée par l'absence de leaders institutionnels et politiques au sein du peuple et une perte des repères spirituels indispensables. Et bien entendu, toujours l'omniprésence du péché qui se manifeste de diverses façons. On y trouve l'oppression des peuples sur les autres, toujours des guerres, des meurtres au sein des familles, l'éloignement de la religion, avec Israël qui se corrompt avec d'autres dieux, des famines, et enfin des atrocités en tout genre dont vous trouverez un exemple dans les tout derniers chapitres du livre des Juges. Donc rien de neuf sous le soleil. Et l'on trouve cette idée dans le premier chapitre du livre des Ecclésiastes, où il est écrit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on se dise « Vois ceci, c'est nouveau. » Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Notre contexte actuel n'est donc pas nouveau, mais il est anxiogène et nous pousse à un repli sur nous-mêmes. Il nous pousse à penser que le maintien et l'exercice de notre foi est de plus en plus compliqué et difficile et pourrait nous amener à capituler devant cette vague de fond qui balaye tout, même les certitudes les mieux ancrées. Le plus facile serait de rester claquemuré chez soi, de prier en petit comité, en cercle fermé, de faire vivre notre Église dans la stabilité, sans plus d'ambition, et de ne plus se mettre en mouvement, de rester paralysé, prostré, dans l'action. Est-ce notre ambition, à nous, en tant que chrétiens ? Comment vivre notre foi au quotidien ? Les textes nous montrent bien entendu d'autres voies, d'autres alternatives, dont nous trouvons un exemple justement dans le livre de Ruth. Ce livre nous raconte une belle histoire, un peu dramatique et romantique. Et comme toute belle histoire, elle se termine par une happy end. L'auteur, qui n'est pas vraiment connu, n'avait sûrement pas comme seul objectif, en écrivant ce texte, de nous faire passer un bon moment de détente. Mais il voulait sûrement nous montrer d'autres perspectives que nous allons essayer de voir ensemble. L'auteur commence le texte par des éléments de description du contexte dans lequel prend place cette histoire. En premier lieu, c'est justement l'époque des juges, époque troublée que nous venons de décrire. En deuxième lieu, il y a justement une famine. Et élément ironique, ce récit prend place à Bethléem, qui signifie la maison du pain, ou la maison de la nourriture. Les personnages du début de cette histoire, que sont Naomi, son mari et ses deux fils, prennent la fuite devant cette famine. Et ceux-ci deviennent alors des réfugiés dans le pays de Moab. Réfugiés comme il y en a tant dans le monde, qui fuient la misère et les guerres. Le sort continue de s'acharner avec le décès du mari et des deux fils. Mais l'auteur ne décrit pas qu'il s'agit d'une punition de Dieu, et je me garderai bien de cette interprétation que l'on pourrait avancer. Au contraire, l'auteur de ce texte manie à l'envi l'ironie pour mettre un peu de, une sorte de légèreté dans ce contexte noir. En effet, le nom du père de famille qui a fui la famine s'appelle Élimélec, Dieu est roi. Et les deux fils qui décèdent s'appellent Maclon, qui signifie maladif, et Kiljon, qui signifie languissant. Ce sont des personnages communs, simples, sans moyens financiers, mis en avant dans le texte, qui ne semblent avoir aucune lignée connue, comme l'immense majorité d'entre nous, comme vous et moi. Pour nous guider dans notre réflexion, je voudrais m'attacher maintenant à l'un de ces personnages, en particulier Naomi, et à son comportement tout au long de ce livre. Naomi aurait pu, au vu de ce qu'elle vient de vivre ces 10 dernières années, être complètement abattue, déprimée, sans force pour avancer, en étant prostrée dans son triple deuil, voire même rebelle envers son Dieu qui semble l'avoir abandonnée. La dépression liée au deuil, que l'on peut imaginer l'avoir envahie, est un fort paralysant, coupant toutes les forces, en créant un repli sur la douleur et sur soi. Mais Naomi a gardé en elle une flamme de sa foi originelle. Et au travers du brouillard, elle sait encore voir et discerner l'action de Dieu. Elle voit au loin, de l'autre côté de la mer morte, la bénédiction de Dieu pour son peuple, avec la fin de la famine. Et elle interprète cela comme la visite de Dieu à son peuple. Elle reconnaît encore la royauté de l'Éternel. Elle reconnaît que l'Éternel conduit les événements. Et elle revient sur elle-même avec suffisamment de recul. Faire demi-tour, reconnaître que le choix antérieur n'était pas le bon, discerner l'action de Dieu en Israël, vouloir profiter de cette bénédiction, ne pas rester bloqué sur une décision passée. Voilà un des premiers enseignements que nous apporte Naomi. Le deuxième enseignement de Naomi est à rechercher dans le comportement de Ruth. Cette dernière, d'origine moabite, n'ayant pas quitté son pays, ayant, nous dit encore le texte, ses parents vivants, fait un choix remarquable. Ce choix dénote une personnalité exceptionnelle, d'une grande fidélité et d'une grande maturité. Mais je pense qu'il faut trouver une explication complémentaire, ailleurs, et là encore, en Naomi. Naomi, dont le nom signifie « ma gracieuse », a été un exemple remarquable pour Ruth, à la fois pendant les années de vie avec la famille au complet, mais aussi au travers du comportement de Naomi au quotidien, en particulier pendant les années de deuil, où elle a maintenu le cap. Comment expliquer que Ruth, qui ne connaissait avant son mariage que sa propre culture, ses propres dieux et sa propre religion, ait pu épouser, en plus de son mari, la religion de sa famille, tout en restant dans son propre pays. Sa belle famille et sa belle-mère ont été un exemple qui a transformé Ruth. Cet exemple se manifeste encore lorsque Naomi fait le choix de retourner à Bethléem, dans son pays, dans la compassion et l'amour qu'elle a pour ses belles-filles, recherchant leur bonheur en premier lieu. Elle ne veut pas être une impasse pour elles, en les obligeant à rester avec elles. Le deuxième enseignement est donc cette exemplarité dans le vécu de la foi de Naomi. Une foi vécue avec sincérité et réalité qui devient un exemple et un témoignage pour les autres. Comme nous le dit Jacques, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 2, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dirait, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » La foi vécue de manière active est un témoignage très puissant. Et Naomi a témoigné sa foi à Ruth, qui à son tour se convertit avec un très bel engagement. Orpa a fait le choix de rester dans son pays. Et Naomi et Ruth se sont alors mises en mouvement. Et cette mise en mouvement est à la fois physique, mais aussi spirituelle. En effet, Naomi, remplie de sagesse, a en elle la flamme de la foi. Mais cette flamme vacille et elle doit cheminer pour la rallumer. Quitter le lieu dans lequel elle a tenté de construire avec son mari une famille, un environnement, un travail, mais tout cela était devenu une impasse. À son retour à Bethléem, on peut imaginer l'émotion ressentie, le passé qui ressurgit, et toute l'amertume et la peine accumulée qui déborde comme un trop-plein. Elle pousse alors un cri à l'Éternel et ne veut plus être appelée Naomi, mais Mara, qui signifie amertume. Elle exprime ainsi qu'elle ne se place plus au rang de celles qui sont bénies par l'Éternel. Son amertume lui fait dire des choses contradictoires. « J'étais dans l'abondance à mon départ, dit-elle. » sachant qu'elle était partie dans un contexte de famine. Mais en même temps, elle appelle son Dieu au secours et elle le nomme l'Éternel, reconnaissant ainsi le Tout-Puissant. Sa foi vacille et elle touche un point bas sur le plan psychologique. Elle revient sans rien, totalement dépouillée, mais forte de sa foi et forte de la compagnie de sa belle-fille qui s'est convertie à Dieu. Heureusement pour Naomi, alors qu'elle est abattue, un élément positif que je veux relever est l'accueil que leur réservent les habitants de Bethléem. Il est écrit « Toute la ville fut émue ». Je trouve cela remarquable à plusieurs titres. Les habitants auraient pu avoir une attitude reflétant un certain mépris, coloré de jugement. Regardez donc Naomi, elle revient les mains vides. Elle a fui, elle qui a fui son pays, avec... devant les difficultés. Elle n'est pas restée solidaire avec nous. Elle est allée chez les étrangers. Dieu l'a punie. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Et en plus, elle revient sur nos terres avec une fille émigrée. Au lieu de cela, la ville est émue. Et ses habitants ne jugent pas. Cette émotion reflète une joie de voir le retour de Naomi et un partage de sa peine et de son fardeau. Cette émotion reflète au contraire une solidarité. Quel bel exemple de simplicité, de solidarité, de compassion pour le retour de la réfugiée et de l'émigré qui l'accompagne. Ce comportement exemplaire va aider Naomi et Ruth à faire le reste du chemin, sur le plan spirituel et bien sûr sur le plan matériel. Le reste du décor est alors planté, puisqu'il s'agit de la saison des moissons des orges. La suite de l'histoire se place donc dans un contexte champêtre au milieu de personnes modestes dans un milieu rural. Dans cette deuxième partie du livre, le texte montre explicitement des personnages qui vivent une foi simple, mais réelle, empreinte de confiance tranquille et paisible en leur Dieu, en l'Éternel. Les mots bénir et les appels à la bénédiction de la part de l'Éternel ne reviennent pas moins de 10 fois dans le texte. Et ce, on s'en souvient, dans le contexte du livre des Juges, que nous avons évoqué précédemment. Ces hommes et ces femmes de la campagne, de cette petite bourgade rurale, vivaient donc leur foi de façon réelle et authentique, malgré un contexte les entourant, difficile et sûrement perturbant. On peut trouver une suite de l'enseignement de ce texte à nouveau dans le comportement de Naomi et des autres personnages qui entrent en scène. On a vu précédemment que nous sommes du temps des juges, temps pendant lequel chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ou en d'autres termes, toute règle et toute loi étaient oubliées et bafouées. Les repères, les traditions religieuses étaient perdus. Aujourd'hui, nous dirions perte des valeurs, perte des repères, perte de moralité. La liberté individuelle prime sur le collectif et chacun fait ce qu'il veut. Le risque est grand, pour nous aussi, de nous laisser emporter par le flot des libertés individuelles qui conduisent au comportement décalé et au péché. Mais que faire dans ce contexte? Naomi et les autres personnages nous donnent une réponse. Suivre la loi de l'Éternel. Appliquer ses préceptes. Naomi trouve refuge dans la loi de son Dieu et elle entraîne Ruth à sa suite, qui va elle aussi entrer dans cette obéissance. Quand tout semble se casser la figure autour de nous, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer, Dieu et sa parole. N'est-il pas écrit les paroles de Jésus en Matthieu 5, verset 18 ? Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Naomi discerne dans cette loi l'élément qui pourrait être sa planche de salut. La loi dite du Lévirat, que l'on trouve en Deutéronome chapitre 25. Cette loi va servir de base à toute la suite du récit. Loi qui sera respectée et appliquée par tous les acteurs de cette histoire. Loi qui va servir de vecteur à la bénédiction de l'Éternel envers ses enfants. Dans un contexte où tout semble partir en live, où il nous semble que plus rien n'est respecté, que les repères sont perdus, il nous reste 2 rochers, l'Éternel et sa parole. Ce sont les rochers sur lesquels nous pouvons venir nous appuyer pour résister aux tempêtes du temps présent. Ce n'est pas par hasard que les textes nous disent explicitement d'étudier sans relâche la Bible, la parole, comme Dieu le dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Enfin, le dernier enseignement que je veux relever est l'opposition entre ce que conclut le livre des juges et ce que l'on constate dans le texte de Ruth. Le livre des juges, comme nous l'avons lu, se conclut par « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». On pourrait aussi lire « Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon ». Il serait naturel pour nous aussi de nous sentir seuls à vivre notre foi, seuls à essayer de maintenir le cap dans notre monde. Un peu comme le prophète Élie, qui se croyait le dernier des prophètes à être resté fidèle à Dieu, à ne pas avoir fléchi le genou devant Baal, alors qu'il y avait 7000 autres fidèles. L'histoire de Ruth est là pour nous montrer que pendant cette période troublée du livre des juges, il y avait une, voire sûrement plusieurs communautés locales qui continuaient à vivre une foi simple et authentique, dans le respect de la loi, dans la solidarité aux autres, dans une compassion pour la réfugiée et l'émigré. Il en est de même aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls au monde à vivre la foi. Dieu a un peuple nombreux. Et nous devons contribuer à faire encore grandir ce peuple au sein de notre société contemporaine. Nous trouverons notre conclusion dans les derniers versets du livre de Ruth. Le cheminement spirituel et matériel de Naomi trouve son épilogue. Après des années de deuil, Naomi, qui a vu l'impasse, a fait demi-tour et est revenue se placer dans le champ de la grâce, en évitant le repli sur soi, en se mettant en route et en mettant sa foi ainsi à l'épreuve. Le résultat de cette foi active et confiante est le retour sous le régime de la grâce. Dans les derniers versets, l'auteur du texte nous fait reprendre de la hauteur et du recul et nous montre que ce qui est incompréhensible à échelle humaine, ce qui nous paraît incompréhensible dans notre espace-temps, est en réalité une petite parcelle du plan de Dieu. Et notre vécu, à nous, à chacun d'entre nous, s'inscrit dans le tableau beaucoup plus vaste et large, telle la toute petite pièce d'un puzzle qui prend sa place dans la grande fresque de l'histoire du peuple de Dieu et de son plan pour l'homme. Malgré le contexte perturbé de son époque, Naomi est restée attachée à sa foi. Elle a été un exemple pour sa belle-fille. Naomi et Ruth et certains de leurs contemporains ont vécu une foi simple, faite de petits gestes du quotidien, une foi confiante, réelle, solidaire, une foi ancrée dans le respect de la loi. Et Dieu a utilisé ces hommes et ces femmes pour construire la grande fresque de l'histoire. Le fils de Ruth, l'émigré, petit-fils de Naomi, ne sera rien de moins que le grand-père du roi David, est l'un des membres de la généalogie de Jésus. Nous aussi, dans notre quotidien, parfois sombre et compliqué, Dieu veut nous utiliser pour construire sa grande fresque. Et nous la découvrirons un jour, pour notre plus grand bonheur, pour autant que nous poursuivions la route de la foi sur le chemin de l'obéissance à sa loi. Amen.